Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Robert Badinter, les libertés fondamentales chevillées au corps, titrait Libération. De l'exécution de Christian Ranucci à la peine de mort au procès de Patrick Henry, Robert Badinter répétera inlassablement aux jurés qu'ils ne devront pas décider s'il est coupable, mais décider de la vie de cet homme. Partisan de l'abolition de la peine de mort, l'ancien ministre de la Justice de François Mitterrand deviendra un adversaire irréductible de la peine capitale. La lutte était peu populaire. L'abolition votée en 1981, Robert Badinter n'en avait pas fini avec la peine de mort, contre une sentence aux imprenables bastions à travers la planète, la Chine, l'Iran ou encore les États-Unis. Il partageait dans un discours de 2021 sa certitude que le mouvement vers l'abolition universelle se poursuivra. Figure tutélaire des libertés fondamentales, Robert Badinter était un interlocuteur incontournable dès lors que les vents du racisme, de l'antisémitisme ou des poussées de fièvre autoritaires faisaient une poussée dans le débat public.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Voyage de mémoire à Auschwitz-Birkenau pour 119 collégiens les 7 et 8 février derniers à Cracovie. L'organisation d'un déplacement à Auschwitz-Birkenau au titre d'un voyage d'études et de mémoire est à l'initiative du département du Rhône. 7 collèges, dont 2 collèges de l'Arbrel, les 80 et Champagnat-l'Arbrel, le collège du Val d'Ardière à Beaujeu et les Pierres Dorées au Val d'Ouin avaient candidaté pour participer. Passeurs de valeurs humaines, mais aussi passeurs de mémoire, leurs témoignages accompagnés des encadrants et invités du voyage.
Julia, on va à Auschwitz, Birkenau le matin et à Auschwitz 1 l'après-midi. J'appréhende un peu parce que c'est quand même quelque chose de difficile qu'on va voir. Mais d'un côté, j'ai hâte. On en parle depuis des mois et on se prépare pour venir ici. On s'est beaucoup préparé. Et enfin, ça se réalise et on va pouvoir enfin voir comment ça s'est passé dans ce camp et réellement se rendre compte de ce qui s'est passé.
Lily, on a eu une conférence hier pour nous expliquer. On a eu l'histoire du camp, comment est composée une chambre à gaz, les différentes parties du camp. Et puis, on a aussi eu l'histoire d'une dame qui s'appelle Simone Kadosh. Et puis, on a retracé sa vie tout au long de ces différentes étapes de sa vie, du moment où elle s'est fait arrêter, rafler, qu'elle s'est fait torturer par Klaus Barbie. Et qu'après, elle s'est fait déporter à Auschwitz. Moi j'ai trouvé ça horrible parce que c'est affreux ce qu'ils vivent, parce que d'abord ils sont torturés pour savoir où sont son petit frère et sa petite sœur, alors qu'eux-mêmes ils savent pas. Après ils sont déportés à Auschwitz, la mère elle meurt parce qu'elle avoue juste, elle a volé une feuille de chou et elle meurt de mauvais traitements, elle est enfermée à l'intérieur de la prison. Et voilà le bloc 11. Et puis au moment où elle revoit son père qui était enfermé dans la partie pour les hommes, et ils le tuent, ils sont juste un câlin et puis après ils lui mettent une balle dans la tête et puis...
Ça t'a beaucoup marqué.
Oui.
Oui, quand même, parce qu'on se dit que si on remontait à quelques années, ça aurait pu être nous. Donc, on se dit que, personne ne veut vivre ça, donc on peut se mettre facilement entre guillemets à la place, même si on peut pas imaginer ce qu'ils ont vécu. Mais
comme dirait la personne, on fait partie des 0,0001% qui vivent dans une génération bénie tant que guillemets, qui connaît pas la guerre et qui est en temps de paix.
Une visite des élèves qui a rigoureusement été préparée.
Alors David Rosset, je travaille à l'action pédagogique des archives départementales et métropolitaines. Donc on vient ici parce qu'on est des agents du département, dans le cadre du voyage mémoire. On le fait d'ailleurs aussi le mois prochain pour la métropole de Lyon. Notre rôle à nous, c'est de faire un peu ce que j'ai fait ce soir, c'est-à-dire d'essayer de transmettre et puis d'amener sur un plateau des choses, de les rendre plus concrètes, de les rendre plus palpables pour les jeunes, puis surtout en leur montrant que ce qu'on dit est avéré par des preuves et que ça repose pas sur une lecture de quelqu'un qui a lu une vidéo sur un réseau. Dans le flux informationnel que les jeunes subissent maintenant, c'est super important de mettre en avant cette validité de l'info. La réalité, elle va plus loin que la fiction.
Un lieu de visite pour permettre aux élèves, par le biais de l'émotion, de mieux cerner les réalités subies.
C'est très grand.
C'est impressionnant.
Ouais. Très impressionnant. Bon, après, on va voir au fur et à mesure de la visite, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est impressionnant. On voit tout ce qu'on a pu voir en cours, en fait. Mais voilà, c'est bien.
Je vois, c'est triste. Enfin, genre, c'est dur et tout. C'est compliqué. Parce qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas spécialement parlé en cours. Donc, ça a permis d'apprendre plus de choses que j'en savais déjà. C'est grave ce qu'ils ont fait.
La persécution et l'extermination systématique et bureaucratique d'environ 6 millions de Juifs, la Shoah.
Isaac Rimok, et je suis président du consistoire régional, région Rhône-Alpes-Centre, Auvergne, et dont le siège est à Lyon. Tout le monde le sait, la Shoah concerne en grande majorité des Juifs, pas seulement, mais en grande majorité des Juifs, et c'est un phénomène, d'abord par son ampleur de barbare, j'ai pas d'autre mot, a marqué le XXe siècle, et c'est probablement de tous les temps l'acte le plus horrible qui ait pu être industrialisé et conduit avec une telle industrialisation, en fait, une telle volonté de détruire, qui s'articule, et on l'a bien vu ce matin dans notre visite, jusque dans les plus petits détails, avec un souci d'efficacité barbare, horreur.
Un déplacement, voyage de mémoire à l'initiative du département du Rhône depuis 1995. Une visite au camp de Auschwitz-Birkenau qui donne également lieu à une cérémonie commémorative au mémorial.
Monsieur Jean-Jacques Brun prendra ensuite la parole pour quelques mots également. Un dépôt de gerbes sera effectué et puis on procédera à une minute de silence.
Le cœur serré par l'émotion, c'est à vous tous, ici rassemblés, que je m'adresse. Il y a 60 ans, les barrières électrifiées d'Auschwitz-Birkenau tombaient et le monde découvrait avec stupeur le plus grand charnier de tous les temps. Avant l'arrivée de l'armée rouge, la plupart d'entre nous avions été amenés dans ces marches de la mort au cours desquelles beaucoup ont succombé de froid et d'épuisement.
Jean-Jacques Brun, conseiller départemental du Rhône, et je suis donc conseiller délégué à la sécurité, à la citoyenneté, et donc j'ai en charge ce devoir de mémoire. Le département tient beaucoup à ce travail de mémoire. Tous les témoins, un petit peu, commencent à disparaître, les témoins de cette époque qui est atroce. Et il est important pour nous que ce travail de mémoire soit fait auprès des collégiens, parce que c'est quand même eux qui sont les plus à même de continuer à transmettre cette histoire, de leur permettre aussi de sentir les dangers et les atrocités qui ont été faites ici, sur ces lieux.
C'est étonnant, quoi. C'est cette histoire. Donc, premier rapport, ça va, on regarde juste, mais après, quand on fouille, c'est impressionnant à regarder. Corentin.
Bien de visiter le musée pour se rendre compte de comment ils ont subi tout ça, les personnes dans le camp. Laurine.
En fait, je crois que ça continue partout dans le monde. Frédéric.
La tristesse.
C'est triste pour eux. Aldrine.
Beaucoup d'émotions, parce que toutes ces photos, tous ces effets personnels, ça rend concret. Ce matin, on a visité Birkenau, Auschwitz, mais on va dire, on a vu l'organisation, etc. Là, on voit l'humain et c'est assez émouvant. Corinne.
Et tout de suite, bien sûr, la page sportive avec Eddy Bernard. Comme chaque lundi, passons en revue les résultats sportifs, bien sûr. Alors, comment s'est passé le week-end, Eddy ?
Eh bien, Sylvie, plus ou moins bien, et on va voir ça ensemble en détail.
Alors, commençons donc par un tour des stades.
En effet, on a commencé vendredi 9 février pour le Football Club Villefranche-Beaujolais, qui a éprouvé beaucoup de difficultés à rentrer dans le match à Marignane, donc contre le Marignane Gignac. C'était la 20e journée du championnat national 1, et les Tigres ont encaissé un but dès la 19e minute. Mais la deuxième mi-temps proposée par nos Caladois sera de bien meilleure facture. Ils égalisent, et c'est mérité, à l'heure de jeu par Rémi Sergio. On en restera là, cependant. Et sur la pelouse donc du 14e du classement, le FCVB prend un point, il reste 8e dans le classement donc du National 1, mais avec toujours ces fameux 3 matchs en retard qu'il faudra évidemment prochainement, on va y revenir, mettre à jour. De son côté, le Gaul FC, toujours en National 1 bien sûr, lui n'a pas pu jouer samedi 10 février, le match prévu devant le FC Sochaux, puisque la pelouse du stade Ludovic Juli à Chasselet a été complètement gorgée d'eau dans les chutes de pluie importantes donc de samedi après-midi, et il n'était pas possible de jouer, le match a été reporté. Du côté de nos équipes de rugby, Dimanche 11 février, le CS Villefranche a proposé un scénario totalement renversant à Nuit Saint-Georges en championnat de Fédéral 1. C'était pour la 17e journée. Il se trouve que les deux équipes ont proposé un affrontement au sens propre comme au sens figuré. Un match extrêmement viril avec un carton rouge de chaque côté dès la 13e minute de jeu. Et puis il y en aura beaucoup d'autres de sanctions, des cartons jaunes, hein, des deux camps tout au long du match. Et les Caladois du CS Villefranche ont été menés jusque de 14 points, mais à une minute de la fin, eh bien, il se trouve que le PAC Caladois a réussi à projeter Ferro dans l'embute à une minute de la fin donc. Et puis, après la sirène, eh bien, ce même Ferro, le héros du match, passait une pénalité qui offre la victoire 22-21 donc au CSV sur le fil. C'est une bonne opération. Il s'éloigne un petit peu de la zone dangereuse du bas du classement. En Fédéral 3, en revanche, nouvel échec à l'extérieur pour le RC Belleville. Cette fois, c'était à Montchanin, là encore en Saône-et-Loire, 21-16. Et mauvaise opération, le RCB est rejoint à la deuxième place du classement par Monceau. Voilà.
Et à l'abri dans les gymnases, quels sont les résultats?
Alors l'entente Beaujolais Handball qui a beaucoup souffert, elle, de son côté, samedi 10 février toujours. C'était pour la 16e journée en National 2, devant l'USO Nevers. Ils sont au coude à coude au classement. Les Caladois ont couru après le score, là, à partir de la fin de la première mi-temps et jusqu'aux 5 dernières minutes de la partie. Mais ils arrachent quand même le match nul, 33 partout. Ils restent en milieu de tableau. Pour les féminines de Saint-Julien, Denis et Glaisée, alors toujours en handball, bien entendu, elles sont passées à côté de leur déplacement à Voiron, lanterne rouge du championnat national 2. Elles ont contrôlé les joueuses du pays voironnais de bout en bout. Elles l'emportent logiquement 28-25. Les Glaiséennes, les Violettes, restent quand même à la 7e place du classement. Là où ça s'est beaucoup mieux passé, c'est pour nos équipes de basket. Beaujolais Basket qui prend sa revanche sur Montpellier-Mosson, toujours samedi 10 février à la salle Georges Lavarenne de Quincier. Ils ont été longtemps accrochés par les Hérotais, effectivement, nos représentants, mais la puissance et la largeur du banc Beaujolais a permis de l'emporter finalement largement, 79-60. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, eh bien Beaujolais Basket est virtuellement leader du championnat national 2 parce que l'Aulne-Saunier a joué un match en plus et a donc deux points d'avance au classement. Mais les Beaujolais, a priori, pourraient donc s'emparer de quasiment seul de la première place. On verra ça dans les prochaines semaines. Et puis en National 3, la Estarare a elle aussi pris sa revanche. C'est contre une équipe alsacienne de Rixheim. Victoire large 92-68 à Robert Maga et ça les renforce à la 7e place du classement. Voilà pour les résultats.
Passons maintenant donc à la suite du programme. Qu'est-ce qui attend nos équipes dans les prochains jours?
Alors pour nos équipes de football, des défis, beaucoup de gros défis à venir ce week-end. Vendredi 16 février, 19h30 bien entendu, c'est l'horaire habituel. Le FCVB sera à Armand-Chouffet pour accueillir le SCO Dijon. Dijon qui est quatrième du classement. Donc là, il va falloir être présent du début à la fin du match pour les Tigres, pour s'éviter une déconvenue à domicile. De son côté, le Gol FC, donc toujours en National 1, et toujours pour la 21e journée du championnat, se déplace à Marseille. Et là encore, ça va être chaud puisqu'ils sont troisième du classement. Donc pour nos deux équipes de football, gros défi ce week-end. Défi encore pour nos équipes de rugby puisque le CSV retrouvera le complexe de l'Escale d'Arnas dimanche 18 février à 15h15. Mais pour recevoir le Servette de Genève qui est à une très très belle troisième place, solidement installée. Et le RC Belleville, lui, donc dans le même temps, bien entendu, sera à Jomard-Dury à la maison contre justement le RC Monceau qui vient de les rejoindre à la deuxième place du classement. Voilà pour les stades.
Et pour les autres disciplines?
Alors, nos handballeurs de l'entente beaujolaise se déplacent du côté de Semur en Aussois, en Côte d'Or, à 20h30, le 17 février, pour la 17e journée. Les féminines de Saint-Julien, Denis et Glaisée seront, elles, à Glaisée à domicile à la salle Saint-Roch et débuteront leur rencontre à 21h contre, c'est encore un gros défi, contre le deuxième du classement, Échirol et Bins. Les équipes de basket seront quasiment toutes en repos, mais une seule équipe et ce rendez-vous, il est important, sera sur le pont puisque c'est un week-end de Coupe de France et Beaujolais Basket est toujours dans l'aventure, rappelons-le, et devra se déplacer en huitième de finale cette fois pour un double bonus, si je puis dire, en effet possible. D'abord, pourquoi pas continuer l'aventure et se rapprocher de l'objectif ultime qui serait la grande finale du Trophée Coupe de France à l'Accor Arena au printemps à Paris. Mais il faudra pour cela, attention, sortir de ce piège, je l'appelle vraiment comme ça, parce qu'il faut se rendre en Corse, à Bastia, samedi 17 février pour le coup d'envoi à 20h, pour aller jouer, c'est abusant mais c'est comme ça, contre l'Étoile Filante de Bastia, qui est un club évoluant trois niveaux en dessous de Beaujolais Basket en championnat régional, mais ils auront 14 points d'avance au moment du coup d'envoi. Donc attention, parce que ça se remonte pas en deux secondes, hein, ce genre de choses. Et puis alors, en cas de qualification, eh bien Beaujolais Basket prendrait un point de plus au classement du championnat de National 2. Donc vous voyez à quel point ça serait un coup double pour Beaujolais. Enfin, pour terminer ce programme du week-end, eh bien le 17 février, samedi 19h30, notre équipe de volleyball caladoise, le VBVB en National 2, se rend à Marseille-Volley pour essayer de battre une nouvelle fois cette équipe marseillaise et les féminines du VBVB en National 3. Elles joueront dimanche 18 février à 14h à Vincennes. Voilà ce qui nous attend pour cette fin de semaine.
Merci Eddy.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.